à votre santé. Eh bien, voici la 210e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les amis, auditrices et auditeurs de RVM. Nous voici à nouveau réunis pour une émission avec...
Élie Pouillaude.
Et...
Daniel Cléo.
Christian Max.
Et moi-même, Hélène Mazur, nous voilà tous les quatre parce que je pense que vous êtes restés sur votre faim. Nous avions évoqué, en fin de dernière émission, la question des adolescents et de comment ils avaient supporté, le mot n'est peut-être pas très bon, la période Covid, confinement, etc. Et donc, nous allons centrer un petit peu notre émission, parce que c'est quand même une question très importante. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, parce que nous, on a eu cette impression, qu'il y a eu un impact sensible de la période confinement et Covid. Et je dis et Covid parce qu'il y a les conditions concrètes du confinement et aussi toute l'anxiété, toute la panique autour du Covid.
Oui, bah, tout à fait. On peut tout à fait confirmer un impact très très important de cette période-là sur les troubles psychiques des adolescents, troubles psychiques qui entraînent souvent des troubles du comportement. Sur le secteur donc, de psychiatrie enfants-ados du sud de l'Oise, on a un dispositif qui est un bon indicateur pour nous de l'évolution de la santé mentale des adolescents. C'est notre service de psychiatrie de liaison avec le service de pédiatrie du GHPSO. Alors le GHPSO, c'est le groupement hospitalier public du sud de l'Oise, qui est particulièrement situé donc, sur Senlis et sur Creil. Sur Senlis, on a la maternité et beaucoup de dispositifs. Et sur Creil, le service de pédiatrie. Alors, dans ce service de pédiatrie, sont hospitalisés des enfants, des adolescents pour des troubles somatiques. Alors, beaucoup de lits sont occupés par des enfants qui développent une bronchiolite, une réaction à un Covid, ou ainsi de suite. Mais il y a également un certain nombre de lits qui sont régulièrement occupés par des adolescents qui présentent des troubles anxio-dépressifs, des idées noires, qui ont fait un passage à l'acte suicidaire, soit par surdose médicamenteuse, soit pour scarification ou autre. Et dans ces situations-là, nous avons des jeunes donc, qui sont hospitalisés pour un trouble somatique, mais dont la causalité n'est, elle, pas somatique, mais elle est psychique.
Vous pouvez nous repréciser, donc, qui n'est pas somatique, autrement dit, qui ne se voit pas sur le corps.
C'est-à-dire qu'un adolescent qui a fait une tentative de suicide par voie médicamenteuse ou pour des scarifications importantes, scarifications profondes, mais évidemment, on va être hospitalisé dans un service de pédiatrie pour le temps nécessaire, pour être soigné, pour guérir, pour être cousu. Mais on se rend bien compte qu'évidemment, que ce qui aboutit à cette hospitalisation, c'est un trouble psychique qui s'est exprimé sur le corps.
Bien sûr. Quand vous dites scarification, il y en a qui se blessent alors, c'est ça?
Oui. Beaucoup. Oui.
Beaucoup.
Beaucoup. Oui. Alors, un indicateur important, c'est donc, voilà, pour ce type de situation-là, nos collègues du service de pédiatrie font appel à nous, c'est-à-dire le secteur de pédopsychiatrie, pour effectuer des consultations pédopsychiatriques dans le service de pédiatrie.
D'accord.
Pour des jeunes qui ne relèvent pas que de la médecine somatique, mais qui relèvent d'un trouble psychique.
D'accord.
Donc là, nous arrivons et nous faisons des consultations dans le service de pédiatrie. Et ensuite, nous faisons des propositions d'orientation post-hospite. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'on bascule sur des consultations ambulatoires, en CMP, en CMPP? Est-ce qu'on préconise un maintien d'hospitalisation, une hospitalisation plus importante en psychiatrie? Est-ce que la situation rentre dans l'ordre? Alors, en 2019, nous avons effectué, cette année-là, 550 rendez-vous, 550 consultations pour des adolescents, dont les 9 dixièmes en fait, présentaient des troubles anxio-dépressifs et des risques de passage à l'acte. Et donc ça, c'est l'année pré-Covid.
Hein. Oui.
Et depuis le Covid...
Depuis 2020.
Voilà, ça ne fait qu'augmenter. Et pour arriver donc, en 2022 à 1200 consultations. Et sur 2023, on est à 1500 consultations. C'est-à-dire pratiquement un triplement du nombre. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y ait beaucoup plus d'adolescents concernés, mais qu'il y a plus de situations graves chez les adolescents. C'est-à-dire qu'il y a des troubles.
Plus de situations graves.
Oui, 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 tout à fait. Plus de situations graves.
C'est préoccupant. Hein.
Donc voilà, donc il nous a fallu, ça, ça a été quand même un axe important pour nous dans, dans notre réflexion sur, sur la stratégie de notre politique de soins à l'adresse des adolescents du sud de l'Oise, c'est-à-dire à partir de cette augmentation quand même extrêmement importante du nombre d'adolescents hospitalisés pour des troubles psychiques importants, pour des troubles anxio-dépressifs et aboutissant à des comportements suicidaires, il nous a fallu repenser nos dispositifs, en créer des nouveaux, réagir très rapidement, hein. Face à cet afflux d'adolescents, c'est-à-dire à la fois créer des dispositifs de sortie, de prise en charge rapide, suite à un
temps... l'hospitalisation.
Voilà, suite à une hospitalisation qui est assez courte en pédiatrie, hein, qui dépasse rarement les 5 jours tout de même. C'est-à-dire d'où la création de CATTP, d'où la création d'une équipe mobile adolescente.
Vous pourrez nous redire le CATTP
Centre d'activité thérapeutique à temps partiel. Une équipe mobile adolescente qui, elle, va se déplacer au domicile des adolescents. Il y a le projet d'ouverture, alors si tout se passe bien, en septembre 2024, donc là c'est une information, c'est un scoop, d'un hôpital de jour aussi pour adolescents, à la jonction de Senlis et de Chamans, dont la population cible serait effectivement les adolescents présentant des troubles anxio-dépressifs et des risques de passage à l'acte suicidaire.
Vous pouvez nous préciser, donc, hôpital de jour. Ça veut dire que les adolescents devraient venir tous les jours pour des soins ?
Oui, oui, tout à fait. L'hôpital de jour, c'est un hôpital qui fonctionne à la journée, de 9h à 17h, pour des adolescents. Alors là, la population pour laquelle on essaye de proposer ce dispositif afin de répondre à ce que nous, on repère comme étant un besoin tout à fait actuel, ce sont des adolescents qui ont un parcours à peu près... habituel de scolarisation en collège ou au lycée.
Donc ils peuvent suivre en même temps. Ouais. Alors comment ça se passe s'ils sont pris de 9h à 17h ?
Ce sont dans des moments où leur situation psychique fait qu'ils ne peuvent pas être scolarisés parce qu'en proie soit à un trouble dépressif très important, soit en proie à une déscolarisation, une phobie scolaire, soit avec un risque de passage à l'acte suicidaire.
Ça, c'est le niveau grave.
Tout à fait. D'accord. C'est le niveau le niveau les plus élevés, bien sûr. Les jeunes qui seront hospitalisés le temps nécessaire, en journée, alors sur quelques semaines, mais avant de pouvoir reprendre une scolarité normale et puis ensuite de poursuivre avec des soins, mais qui seraient plus légers, plus de l'ordre de la consultation en ambulatoire.
Donc, ce jeune-là retourne chez lui le soir, quoi.
Absolument.
Et donc, pour les parents, dans cette situation-là, vous faites une information, vous faites quelque chose, des entretiens, parce que... ils le prennent en charge après, le soir.
Bien entendu. Bien sûr. Un pédiatre très célèbre, Winnicott, qui disait qu'un bébé seul, ça n'existe pas. Un bébé est pris dans son environnement, nécessairement. Un bébé seul, c'est un bébé qui va dépérir. On pourrait dire pareil d'un adolescent. Un adolescent seul, ça n'existe pas. Et un adolescent qui va mal, c'est l'ensemble d'un système familial qui va mal ou qui est en souffrance. Et évidemment, il convient, bien entendu, de parer à l'urgence et de prendre très, très rapidement en charge cet adolescent-là, mais aussi de recevoir l'ensemble du dispositif familial, d'écouter aussi la difficulté, la douleur, ce qui peut être la souffrance des parents, leur inquiétude, leur angoisse. Donc, bien entendu, on, dans des situations aussi complexes, qui est quand même se développe assez fortement ces derniers temps. Bien entendu, la prise en charge de l'adolescent va avec une prise en charge des parents, bien entendu.
C'est quand même très intéressant d'entendre ça, parce qu'il y a tellement de discours culpabilisants vis-à-vis des parents quand un enfant ou un adolescent va mal. Je veux dire, si ça va mal globalement, c'est qu'il y a un problème qu'il faut...
L'adolescence est un moment très particulier de réorganisation des enjeux psychiques, de la question identitaire, de l'image de soi, des exercices narcissiques. C'est un moment où, évidemment, parfois il y a une corrélation entre... la situation familiale et le trouble du jeune, bien entendu. Mais il peut aussi tout à fait arriver qu'un jeune, suite au mécanisme propre de l'adolescence, développe des troubles
oui.
et qui...
Oui, tout à fait.
La famille subit aussi les enjeux. Quoi.
Oui, oui, des épisodes dépressifs des adolescents, c'est vrai. Que
Alors, oui. donc, l'idée à partir de cette augmentation du nombre de jeunes hospitalisés en pédiatrie, donc développer des structures post-hospitalisation, mais également de développer, en l'occurrence, une structure particulière de prévention pour éviter... qu'on en arrive à une situation qui s'enquiste et qui parce que on sait bien qu'un adolescent qui va être hospitalisé un exemple à l'âge de 15 ans pour un passage à l'acte suicidaire ben c'est un adolescent qui va mal depuis longtemps depuis hier, c'est-à-dire ça fait déjà 2 ans 3 ans qu'il va mal qu'il s'isole qu'il se déprime et parfois ce sont des adolescents qui passent en travers de nos radars parce que ils n'ont pas été repérés ou parce qu'ils ne sont pas venus consulter. Et donc l'idée pour nous, c'est d'intervenir évidemment de la manière la plus précoce possible, le plus en amont possible, de manière préventive, pour essayer de dénouer le plus rapidement les enjeux de la situation de ce jeune-là. Et donc, en cela, aidé par l'ARS, nous avons créé en janvier 2023, donc de manière assez réactive là aussi, la Maison des adolescents de l'Oise, qui est une maison des adolescents départementale, qui est située à Montaterre. Mais dont la vocation est de couvrir, alors ça se développe, hein, mais l'ensemble du département, avec deux missions principales, une mission de réception des adolescents ou des parents, s'ils le souhaitent, de manière préventive, c'est-à-dire qu'il suffit de passer la porte pour demander, pour pouvoir avoir accès à une infirmière, un psychologue, si nécessaire, un regard pédopsychiatrique. Pour tout type de questions relatives à l'adolescence, ça peut être des questions juridiques, des questions somatiques, des questions psychiques, et également une deuxième mission de mailler le territoire, de faire le réseau avec les différents acteurs de l'ensemble de la vie de l'adolescent, qui eux peuvent être les témoins des premiers signes de l'apparition d'un trouble psychique qui échapperait au dispositif de pédopsychiatrie. Parce que le jeune ne consulte pas encore, et donc évidemment ses partenaires qui sont en première ligne, eh bien, ce sont l'éducation nationale, les collèges, les lycées, les associations, les mairies, les éducateurs. Et donc là, il y a tout un travail de réseau, de formation, de lien avec ces différents acteurs pour essayer de détecter, de repérer le plus rapidement possible des jeunes qui commencent à aller mal avant que la situation n'empire.
Vous allez dans les établissements scolaires ?
Bien sûr.
Ah oui, bien parce qu'en principe, dans les collèges et les lycées, il devrait y avoir un ou une psychologue. Alors maintenant, c'est qu'ils font plusieurs établissements, donc c'est très compliqué. Mais donc, vous venez en plus, si j'ose dire. C'est indépendamment.
Absolument. Il y a de deux manières assez précises. Alors, la Maison des adolescents, elle, a vocation à se rendre dans les collèges et lycées. Alors, bon, parfois, si c'est nécessaire pour la rencontre d'un adolescent qui rencontrera une difficulté, mais aussi très particulièrement pour être en lien avec le personnel de l'établissement, pour former, pour porter, pour aider au repérage, pouvoir détecter l'apparition de premiers troubles. Et ça fait partie également des missions des CMP, CMPP, que d'être en contact. Alors, ça fonctionne un peu différemment localement, en fonction des histoires, des liens, des relations. Mais par exemple, sur Crépy-en-Valois ou sur Senlis, il y a un très grand dynamisme de l'articulation entre les CMP, CMPP, les collèges et lycées de tout le secteur senlisien.
Bah écoutez, moi, ça me rassure parce que j'ai connu une période, hein, travaillant dans l'éducation nationale, où il n'y avait plus de psychologue. Quoi. C'est l'assistante sociale qui faisait office d'orienter, vous voyez. Donc, c'est formidable, hein, franchement, c'est formidable. Alors, je crois qu'on a des questions un petit peu plus... qui sortent un petit peu de toutes ces explications. Daniel, tu voulais...
Déjà, merci à M. Pouillaud encore de nous avoir accordé un deuxième entretien. Et puis bon, on est un peu bluffé par tous les sigles. Heureusement que j'ai des antisèches devant moi. Hein, et puis bon, moi, j'aurais voulu savoir comment vous êtes financé, quel est votre bailleur de fonds, et puis qu'est-ce qu'on voit sur votre feuille de paye, voilà.
Nous sommes financés sur les CMPP et sur le secteur de psychiatrie enfants ados, nous sommes financés par l'ARS.
L'ARS,
c'est un financement de l'État.
Donc c'est l'État.
Voilà, une délégation de services publics.
D'accord.
Et je dois dire, on a l'habitude de se plaindre, effectivement, de la situation de l'hôpital. Bon, ce que je constate, en tout cas, sur l'Ouest-Sud, sur la psychiatrie infanto-juvénile, nous avons un soutien assez fort de l'ARS de l'Oise. Nous avons des partenaires avec qui nous sommes très en contact, très en lien, avec qui on a, je crois, même beaucoup de plaisir à travailler. Et nous avons un soutien qui est concret, qui n'est pas que des mots, mais quand on peut ouvrir une équipe mobile pour adolescents, quand on peut ouvrir une maison des adolescents, c'est aussi des budgets supplémentaires qui nous sont octroyés par l'ARS. Alors, il en faudrait évidemment toujours plus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va dans le bon sens.
Il n'y a pas de barrage. Et l'ARS, pour info, ça veut dire l'Agence régionale de santé. Voilà.
Tout à fait.
Oui. Oui. Voilà. Et elle prend sérieux la santé mentale, on en est satisfait.
Et il y a des fonds, voilà. D'accord.
Oui. Alors, Christian, je crois que toi aussi, tu te posais des questions.
Moi, je me posais des questions au sujet de l'objet de notre association. Puisque nous, c'est de créer des centres de santé dans le Pays de Valois. Et il y en a un qui vient de se créer à Crépy depuis septembre 2021. Deux médecins, aujourd'hui, sont une dizaine, en comptant les résidents plus les stagiaires
Et puis les médecins assistants.
Oui, tes arts.
Et je me demandais... la santé mentale, est-ce que vous avez des rapports avec ces gens-là ?
En tout cas, ça fait partie de nos missions d'en développer le plus possible. Et on est tout à fait demandeurs de ces articulations, notamment sur la question médicale, qui est une question complexe, en souffrance sur l'ensemble, évidemment, du territoire. Nous manquons, nous souffrons de manquer de psychiatres et de pédopsychiatres partout. Alors, on a eu la chance là, de faire quelques recrutements sur l'Ouest-Sud, mais c'est pour l'ensemble de l'Ouest-Sud et ce sont souvent des mi-temps. Très souvent, les pratiques de pédopsychiatrie sont aussi portées par des psychologues, par des infirmières, par des éducateurs de jeunes enfants, par des psychomotriciens, par des orthophonistes, et reliés évidemment à un pédopsychiatre, mais pas uniquement que par des pédopsychiatres. Donc on est évidemment très très en besoin et en demande de développer le maximum de liens possibles avec les médecins.
Alors, comment vous voyez ? Vous voyez, donc, nous, le centre de santé, c'est donc une structure où il y a des médecins salariés qui travaillent en équipe.
Généralement.
Voilà. Et, pour le moment, les spécialistes, on va dire, c'est une spécialité, la psychiatrie, viennent de Saint-Côme pour une vacation. Qu'est-ce que vous verriez qui serait utile de développer, parce que nous, on peut en parler, on va voir prochainement notre Assemblée Générale, et on peut en parler après avec les gestionnaires du centre de santé.
Nous, on a de vrais besoins sur la question somatique pour un certain nombre de patients qui peuvent être parfois en difficulté pour être accompagnés sur ces questions-là. Je pense à des jeunes parents ou des tout petits enfants qui ont déjà des troubles de la relation, des troubles du développement. Et pour qui on a besoin de développer des partenariats et un regard très, très accru sur la question, sur la question somatique. Je pense également aussi pour les adolescents, la question somatique là aussi, avec la puberté, est tout à fait essentielle. Donc là, évidemment, il y a besoin de ce lien-là, étant entendu que dans nos dispositifs, nous n'avons pas de financement pour engager des médecins généralistes, ce sont des médecins spécialisés, comme vous l'avez dit.
Non. Alors en fait, ce serait une question de relation, d'orientation vers.
C'est ça, bien sûr.
Voilà. Ouais. Mais donc, il faudra un premier contact, une première information de ce que vous proposez et de ce que vous pouvez faire.
Absolument.
Écoutez, c'est un sujet intéressant qu'on va pouvoir débattre à notre Assemblée Générale. On vous remercie beaucoup, Monsieur Lipouillot.
Merci.
Franchement, vous nous avez ouvert beaucoup de pistes de soins qui nous sécurisent un peu.
Merci
Merci. Auditeurs et auditrices d'RVM, vous savez que vous pouvez nous écouter chaque mardi à 13h et le samedi de 10h30. Et bien entendu, au podcast. Au revoir.
Au revoir.